VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 18 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Décès de l'ancien président burundais Pierre Buyoya la nuit dernière à Paris à l'âge de 71 ans des suites du coronavirus. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a validé la réélection du président Roch Marc Christian Kabore. En Centrafrique, les attaques contre les équipes de campagne et candidats se multiplient à l'approche des élections. Les autorités américaines font face à une cyberattaque d'envergure contre plusieurs ministères. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'ancien président burundais Pierre Buyoya est mort la nuit dernière en France. Âgé de 71 ans, il avait été testé positif au coronavirus. Retour sur ses dernières heures et les faits marquants de sa vie avec Mohamedou Oumfa.
Le 9 décembre, Pierre Buyoya est hospitalisé dans un hôpital de Bamako au Mali. Il a même été placé sous respirateur. Hier jeudi, il est évacué sur Paris en début d'après-midi et succombe dans l'ambulance qui l'a mené vers un hôpital. Pierre Buyoya quitte la scène à 71 ans, emporté par le Covid-19. Il y a quelques semaines, condamné au Burundi par contumace à la prison à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye, il démissionne de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Il se dit innocent et s'engage à laver son honneur. Lorsque le président Jean-Baptiste Bagaza est renversé sur fond de grogne militaire, Pierre Buyoya devient président et met sur pied un processus qui débouche en 1993 à l'élection de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du Burundi. Moins de 4 mois plus tard, Ndadaye est assassiné dans un coup d'État, ce qui va entraîner une guerre civile meurtrière. Pierre Buyoya reviendra aux affaires en 1996 et signera en 2000 les accords d'Arusha pour mettre un terme à la guerre civile. Il quittera le pouvoir en 2003 conformément à ces accords.
Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a validé ce vendredi la réélection pour un deuxième mandat de 5 ans du président sortant Roch Marc Christian Kabore avec 57,74% des voix au premier tour. Le point avec Lamine Traoré à Ouagadougou.
Article 1er. L'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Le candidat Kabore Roch Christian Marc est élu président du Faso.
Kassoum Kambo, le président du Conseil constitutionnel, par cet acte solennel, confirme ainsi la réélection de Roch Kabore. Le Conseil constitutionnel affirme qu'il n'a pas enregistré de recours relatif à la régularité des opérations électorales émanant des candidats à l'élection du président du Faso. Cependant, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats de 200 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire pour des irrégularités constatées selon lui. Des insuffisances et erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, a rassuré le Conseil constitutionnel. Un nouveau bail donc pour le président Kabore. Les principaux défis restent la réconciliation nationale, mais surtout la restauration de la sécurité. Des attaques terroristes qui ont fait plus de 1000 morts et au moins 1 million de déplacés dans le pays en seulement 5 ans. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Plus de 300 garçons enlevés vendredi dernier par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria et libérés la nuit dernière ont été reçus par les autorités de l'État de Katsina. Arrivés en bus et en camion jusqu'à la résidence du gouverneur, les enfants ont marché pieds nus, exténués et le visage recouvert de poussière jusqu'à la salle de réception où les attendaient des officiels, dont le gouverneur Aminu Bello Massari. Ils devaient bénéficier de soins avant d'être rendus à leur famille. L'attaque djihadiste contre le village de Toumour dans le sud-est du Niger avant les élections régionales dimanche dernier a fait 34 morts selon un nouveau bilan. Cette femme et 2 enfants sont parmi les victimes, a indiqué Boukar Mani, le maire de la localité de la région de Diffa, proche du Nigeria. Un bilan encore provisoire car il y a 100 de blessés, a précisé la Commission nationale des droits de l'homme. En Centrafrique, à 9 jours des élections présidentielles et législatives, les attaques contre les équipes de campagne se multiplient. Plusieurs candidats ont été agressés à l'intérieur du pays et les fonctionnaires abandonnent les régions par peur des groupes armés. Le point avec Bagassi Koura.
Depuis quelques jours, c'est l'inquiétude, voire la panique. À Bossangoa, à quelques 300 km au nord-ouest de Bangui, la psychose a poussé les fonctionnaires à partir pour la capitale, affirme Barthélemy Wilcon, le préfet local. Aujourd'hui, hors Bangui et ses environs, peu de candidats s'aventurent à l'intérieur du pays. Parmi les 17 prétendants à la magistrature suprême, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, le grand favori. Plusieurs candidats du parti au pouvoir, le MCU, ont été victimes d'agressions par des hommes armés. D'autres ont vu leurs véhicules confisqués. Selon les experts, ces incidents qui se multiplient dans les territoires occupés par les groupes armés ne menaçaient pas jusque-là la tenue du premier tour le 27 décembre. Mais ce vendredi, la donne semble avoir changé car on signale la présence d'hommes fortement armés aux portes de Bangui. C'est presque le même scénario qu'en 2013 lorsque l'ex-Séléka, une coalition à dominante musulmane, a renversé le président François Bozizé.
Les autorités éthiopiennes offrent une récompense d'environ 257 000 dollars pour des informations permettant de localiser les dirigeants du Tigré. Les leaders du Front populaire de libération du Tigré sont en fuite depuis la prise annoncée le 28 novembre de Mekele, la capitale régionale. L'armée éthiopienne versera 10 millions de birres, près de 257 000 dollars, à quiconque permettra la localisation exacte des dirigeants du TPLF, a déclaré le chef du département de l'information militaire, Asrat Denero. L'ONU et ses partenaires réclament 254 millions de dollars pour l'aide humanitaire d'urgence au Mozambique, où plus d'un million de personnes sont menacées par les violences dans la province de Cabo Delgado. Près de 530 000 personnes sont déplacées dans cette province, mais la crise touche également les provinces voisines Nampula et Niassa, indique un communiqué de l'ONU. Inauguration à Rabat au Maroc ce vendredi de l'Observatoire africain des migrations, plateforme d'études lancée par l'Union africaine à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Cet observatoire aura pour mission de collecter, d'analyser et d'échanger des données à travers un système interconnecté associant les pays africains pour développer une meilleure gouvernance migratoire sur le continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La cyberattaque d'envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un grand risque et les mesures pour la contrecarrer sont très complexes, a prévenu l'agence en charge de la cybersécurité. Le point avec John Linden.
L'attaque a débuté en mars. Les pirates, profitant d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas, SolarWinds, utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. Elle s'est poursuivie durant des mois avant d'être découverte par le groupe de sécurité informatique FireEye, lui-même victime de cyberattaque la semaine dernière. L'agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures a indiqué dans un communiqué avoir déterminé que cette menace représentait un risque grave pour le gouvernement fédéral et les administrations locales, ainsi que pour les infrastructures essentielles et le secteur privé. Joe Biden, le président élu, a indiqué que son équipe de transition a été informée, ajoutant qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais ce que nous savons est très préoccupant. Il promet dès sa prise de fonction que la réponse à cette cyberattaque sera une priorité.
Le vice-président américain Mike Pence s'est fait administrer le vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech en direct à la télévision alors que les États-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin. Le but est de renforcer la confiance dans la vaccination, a déclaré M. Pence. Le président Donald Trump affirme que la distribution du vaccin Moderna va commencer alors que la décision de la FDA est attendue sous peu. Le président élu Joe Biden doit lui être vacciné la semaine prochaine. L'OMS et l'Alliance pour les vaccins qui ont mis en place un mécanisme pour distribuer des vaccins aux pays défavorisés prévoient d'envoyer les premières doses au premier trimestre 2021. Le projet COVAX a obtenu près de 2 milliards de vaccins, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ce qui correspond à l'objectif fixé d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Le trafic aérien gabonais a enregistré une perte de 55,7% au cours des 9 premiers mois de l'année, selon les statistiques de l'aéroport de Libreville diffusées par l'Agence nationale de l'aviation civile. Au 30 septembre, l'aéroport international Léon Mba de Libreville a accueilli un peu plus de 203 000 voyageurs contre environ 600 000 au cours de la même période l'an dernier. Douala Grand Mall, le plus important centre commercial d'Afrique centrale, est officiellement ouvert. Il a été inauguré par le premier ministre camerounais Joseph Diongouté. Douala Mall devrait renforcer les affaires dans la sous-région. Les travaux avaient débuté en décembre 2017 et auront coûté plus de 80 milliards de francs CFA. Douala Grand Mall devrait générer environ 4 500 emplois directs et indirects. Les États-Unis vont ajouter ce vendredi des dizaines d'entreprises chinoises à leur liste noire. Au total, quelques 80 entreprises et filiales sont concernées. Pour Washington, ces entreprises ont des liens avec l'armée chinoise ou sont impliquées dans des violations présumées des droits de l'homme. Plus de 275 entreprises chinoises figurent déjà sur cette liste.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Le gardien de but égyptien Mohamed Abdel Monsef dispute sa 25e saison consécutive dans l'élite égyptienne. Il vient d'égaler selon Foot 365 le record des légendes italiennes Paolo Maldini et Francesco Totti. Mohamed Abdel Monsef est le gardien de but égyptien qui a gagné deux Coupes d'Afrique avec les Pharaons en 2006 et en 2008 notamment. Selon le site, en disputant sa 25e saison de rang dans l'élite de son pays, le joueur de 43 ans vient de faire mieux que Ryan Giggs, 24 saisons en Premier League, et d'égaler les Italiens Paolo Maldini et Francesco Totti. Le Bayer Leverkusen annonce les prolongations du défenseur burkinabé Edmond Tapsoba et de l'ailier franco-malien Moussa Diaby. Selon Football 365, les deux joueurs ont prolongé leur bail respectif d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2026 pour le jeune arrière central et jusqu'au 30 juin 2025 pour l'ancien parisien Moussa Diaby. L'attaquant de Barcelone et de l'Argentine, Lionel Messi, a été élu vendredi champion de la paix 2020. Par l'organisation caritative Peace and Sports et succède au palmarès à Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et Blaise Matuidi. Le respect envers les autres est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais enfant et que j'essaie toujours d'appliquer sur le terrain du football, a réagi Messi, cité dans un communiqué de l'organisation. Le joueur du Barça est récompensé notamment pour son action à travers sa fondation qui favorise l'éducation et l'inclusion sociale d'enfants issus de milieux défavorisés dans le monde entier, notamment en Espagne, en Argentine, au Mozambique, en Palestine, au Kenya, en Syrie ou encore au Népal, selon Peace and Sports. Et puis enfin, les chiffres d'affaires consolidés du groupe Bayern Munich s'est élevé à 698 millions d'euros pour la saison 2019-2020 avec un bénéfice après impôt de 9,8 millions malgré l'impact du Covid-19 sur les revenus.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est décédé à Paris à l'âge de 71 ans des suites du coronavirus. Il a dirigé le Burundi à deux reprises entre 1987 et 2003. Sa mort est survenue quelques semaines après sa démission du poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Eric Manirakiza a joint à Dakar Freddy Nkourikiye, médiateur international qui connaissait Pierre Buyoya depuis 1994.
Je pense avant tout c'est de présenter mes condoléances à sa famille, à son épouse Sophie, à ses enfants. J'ai connu un homme d'État d'une analyse extrêmement pointue, d'une vive intelligence, de grandes convictions. C'était quelqu'un qui, dans l'absolu, c'est quelqu'un que j'ai connu d'extrêmement digne et juste, loyal et dévoué, mais qui est resté chez lui au Burundi extrêmement incompris dans certains cercles. Et sur le plan international, le volume des sollicitations dont il a été l'objet presque ces 15 dernières années, ces deux dernières décennies, il était tellement sollicité que justement son volume de sollicitations est l'expression des qualités qui peuvent illustrer le défunt. Sur le plan interne au Burundi, c'est d'abord l'homme de l'unité nationale avec la charte de l'unité qui avait mis en place une commission qui avait fait le tour de certaines questions qui minaient la société burundaise jusqu'à l'adoption populaire de cette charte de l'unité, qui reste une référence aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'homme de l'ouverture démocratique. Il a conduit le multipartisme, il a conduit les élections de 93 qu'il a perdu, acceptant de quitter le pouvoir malgré certaines sollicitations pour se maintenir. Troisième chose, c'est l'homme des accords d'Arusha, ces accords de paix qui ont permis à ce que les Burundais s'asseyent et vident au moins en grande partie et de manière substantielle le conflit de sang qui a hypothéqué les bonnes relations sociales entre toutes les composantes burundaises.
Il était quel type de personnalité?
L'homme que j'ai connu, c'était quelqu'un de très réservé. On pouvait le dire froid, mais je pense qu'à des moments, il devait avoir quelques accès de timidité. Mais bon, c'était quelqu'un de réservé, mais qui écoutait beaucoup, qui consultait énormément et qui jouissait d'une mémoire phénoménale.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a exprimé des regrets éventuels?
Ce que je retiens de lui le 24 novembre dernier, c'est le jour de son anniversaire. On a évoqué son dossier judiciaire. Je pense que le regret, les derniers mots qu'il m'a dit, c'est qu'il est convaincu, je suis convaincu que la vérité finira par triompher. C'est ce qu'il m'a dit. Et je pense probablement que c'est un des regrets avec lequel il part. Le fait de ne pas, à son sens, avoir manifesté ce qu'il estimait être sa vérité, lever le voile sur tous les doutes nourris à son égard. Mais hélas, trois fois hélas, les voies du Seigneur sont insondables. Il part avec cette vérité. Probablement qu'on ne la connaîtra pas, à moins qu'il ne l'ait laissée retranscrite quelque part.
Il a œuvré pour la paix au Burundi. Il ne pouvait pas rentrer dans son pays. Est-ce que il a eu des regrets quelque part sur ce point?
Naturellement, pour quelqu'un qui a exercé les fonctions qui sont les siennes, je pense que le fait de ne pas rentrer librement chez lui, ça devait lui faire mal. C'est, y compris lui-même comme sa famille. Et bon, j'espère qu'il pourra au moins trouver sa dernière demeure dans son pays natal, le Burundi.
C'était Freddy Nkourikiye, médiateur international. Il était joint à Dakar.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Centrafrique, la tension est toujours vive alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Des combats sont signalés dans deux villes situées à environ 150 km au nord de Bangui. Ils opposent des militaires à des hommes armés supposés proches de l'ancien président François Bozizé. Le point avec Freeman Sipila à Bangui.
En 48 heures seulement, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée. Une coalition d'hommes armés supposée proche de l'ancien président François Bozizé a lancé plusieurs offensives contre des positions des forces de défense et de sécurité. Des combats se sont déroulés ce vendredi dans plusieurs localités situées non loin de Bangui. Les assaillants auraient repris à l'armée le contrôle de certaines villes, poussant de nombreuses personnes à fuir en brousse. La première ville occupée est Yaloké. Sur place, l'on signale la présence d'hommes lourdement armés et des corps jonchant le sol. À Bangui, comme dans d'autres villes, la psychose a pris le dessus. Le groupe de travail de la société civile condamne ces attaques et appelle au dialogue. Paul Cresson Beninga, son porte-parole.
Le GTSC, par ma voix, condamne cet acte parce que nous estimons que le pays n'a pas besoin d'une rébellion. Il est certes, les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, nous l'avions dit, mais cela ne doit pas donner une raison à qui que ce soit pour pouvoir marcher sur Bangui. Nous pensons que l'heure n'est plus à la rébellion. Nous condamnons cet acte et nous appelons les Centrafricains qui sont derrière ces mouvements à la raison, à revenir à la table des négociations. Et nous invitons une fois de plus le président de la République, Faustin Akal Touadéra, à ouvrir un dialogue le plus vite possible aux forces vives de la nation pour trouver une solution le plus rapidement à ce qui se passe dans ce pays.
C'est le silence total du côté des hommes politiques centrafricains et de la communauté internationale. Questionné ce vendredi par des députés à l'Assemblée nationale, le ministre de la Sécurité publique, le général Henri Wanze-Lingisara, a parlé d'une invasion de malfaiteurs.
Aujourd'hui, nous pouvons dire clairement qu'il existe une coalition entre l'ancien président Bozizé et les chefs rebelles. Et c'est ce même style-là de 2013 qui est en train de venir avec la promesse. Une fois sur le terrain à Bangui, on laissera 3 jours aux combattants de se servir sur la population et l'État centrafricain. Une fois se servi après les 3 jours, ils vont repartir et le pouvoir continuera entre d'autres mains.
Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'économie. Le principal axe de ravitaillement de Bangui par le Cameroun est bloqué. Des centaines de camions de transport de marchandises sont coincés dans la ville de Boire à plus de 400 km à l'ouest de Bangui. Un conducteur camerounais appelle à une solution rapide.
La route est barrée, raison pour laquelle que nous avons fait aujourd'hui ici pratiquement 4 jours. Tout ce qu'on peut dire aux autorités compétentes, chargées vraiment de la sécurité de la population, c'est vraiment de penser vraiment à nous qu'ils viennent nous secourir parce que nous sommes en train de mourir de la peur. Là où nous sommes là, nous sommes dérangés.
Cette montée brusque de tension a paralysé le déroulement de la campagne électorale. Plusieurs candidats ont dû suspendre leur meeting en attendant de voir clair dans la situation du pays. Depuis l'invalidation de la candidature à la présidentielle de l'ancien président François Bozizé, des rumeurs de la formation d'une coalition ex-Séléka et anti-Balaka entre le pays. C'est ce groupe proche de Bozizé qui serait en train de vouloir renverser le pouvoir de Bangui. Il y a quelques jours, François Bozizé acceptait l'invalidation de sa candidature et maintenant il semble refaire le même scénario que l'ex-Séléka qu'il avait chassé du pouvoir en 2013. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Nigeria, après une semaine en captivité, les enfants relâchés jeudi pourront bientôt rejoindre leur famille. Des centaines de garçons avaient été enlevés vendredi dernier d'une école scientifique publique de Kankara, dans le nord-ouest du pays. Après leur libération, ils ont été reçus par les autorités de l'État de Katsina. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Plus de 300 adolescents libérés sont arrivés à Katsina une semaine après leur enlèvement. Des images des chaînes de télévision ont montré les garçons descendant de bus. Beaucoup parmi eux portaient des uniformes vert clair, l'air fatigué et pieds nus. Témoignage de l'un d'entre eux.
Durant tout ce temps, on nous donnait seulement du pain, des arachides et du manioc à manger. Pendant la nuit, on faisait tous nos besoins sur place là où on dormait. Quand vous tentez de vous lever pour aller vous mettre à l'aise dehors, ils te frappent et t'ordonnent de retourner te coucher.
Les garçons ont été enlevés vendredi dernier. Des hommes armés ont fait une descente dans le lycée scientifique et public de la ville de Kankara dans l'état de Katsina, emportant avec eux plus de 300 garçons. Une grande joie a accompagné leur libération. Hideyat Hassan est directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
It's good news that C'est une bonne nouvelle que les enfants de Kankara soient libérés. Cela donne la joie à leur famille et une bonne manière pour le pays de terminer l'année. Cela dit, ces enlèvements récurrents d'enfants qui sont l'avenir du pays est une préoccupation majeure.
Le groupe armé Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement, comme il avait revendiqué le rapt de plus de 270 jeunes filles à Chibok dans l'état de Borno. Le groupe djihadiste mêlait souvent les rapts dans le nord-est du pays, mais opérait rarement dans le nord-ouest du Nigeria. Beaucoup de questions demeurent quant aux circonstances de la libération de ces garçons et on ne sait toujours pas si une rançon a été payée. Deji Adeyensu est un activiste nigérien.
C'est inquiétant que les actions du président Buhari encouragent le terrorisme, le banditisme et des enlèvements dans le Nord en particulier et dans tout le pays en général. Parce que le gouvernement a maintenant une politique de négociation avec des terroristes, de dialoguer avec des terroristes et de payer des rançons pour la libération des citoyens enlevés.
Critiqué par beaucoup de Nigériens pour son silence depuis l'enlèvement, le président Muhammadu Buhari, lui-même originaire de l'état de Katsina, se veut rassurant.
Je vais continuer à rester loyal à mon pays. J'ai demandé pour cette responsabilité et elle m'a été confiée. Je n'ai aucune excuse à donner pour avoir manqué de respecter mon engagement. Je suis préoccupé par la situation de sécurité dans le pays et j'espère que l'année prochaine sera différente.
Les garçons libérés doivent passer des examens médicaux avant de rejoindre leur famille. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Les États-Unis étendent à plus de 600 centres de distribution le déploiement du vaccin anti-Covid, tout nouvellement approuvé. Des milliers de travailleurs de la santé doivent être vaccinés en priorité. Un reportage de Mariama Diallo de La Voix de l'Amérique, le récit est de Lionel Gaïma.
Près de 1000 doses de vaccins Pfizer-BioNTech sont arrivées à l'hôpital méthodiste de l'Université d'Indiana à Indianapolis. Ted Trujillo est directeur de la pharmacie de l'hôpital.
C'est excitant, je veux dire, c'est une lumière au bout du tunnel.
Selon lui, faire vacciner les gens est un grand défi.
L'environnement dans lequel nous nous trouvons avec une augmentation des cas, une hausse du nombre de patients, un personnel fatigué et qui se dit alors, oh, au fait, nous devons ajouter cela. Voilà le défi. Tout le monde a du pain sur la planche et nous devons nous assurer que cela se produit et se passe correctement. Et avec le produit Pfizer ayant une durée de température ambiante très limitée, le timing est crucial.
Le docteur Steven Grunth a été l'un des premiers à se faire vacciner.
C'était 9 longs mois. Ce fut un privilège et un honneur d'être en première ligne et de prendre soin des gens.
Le COVID-19 a fait plus de 310 000 morts aux États-Unis et a infecté plus de 17 millions de personnes. Le système de santé est submergé et des millions de personnes se sont retrouvées au chômage. Le vaccin est la première étape vers le retour à la normale. Dr Bill Petrie, professeur spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Virginie.
Nous sommes vraiment ravis de l'efficacité et de la sécurité de ce vaccin. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous ferons vacciner de plus en plus d'Américains et de personnes dans le monde, c'est ce qui va interrompre la chaîne de la pandémie.
Cependant, il y a eu quelques rares cas de réaction allergique au vaccin en Grande-Bretagne et un cas dans l'État américain de l'Alaska. Par ailleurs, il est difficile de distribuer le vaccin dans les régions reculées du monde entier du fait de la nécessité de maintenir les doses à des températures très froides. Dr Burak Kazaz, professeur de gestion de chaînes d'approvisionnement à l'Université de Syracuse.
Si vous vous rendez dans une grande ville, disons en Afrique, les types d'arrangements logistiques que nous avons pris pour le marché américain ne sont pas différents. Cependant, pour les endroits éloignés, cela pourrait être plus difficile et nous pourrions utiliser, par exemple, des technologies de drones pour fournir ces vaccins dans des délais aussi courts.
Le nombre de cas dans le monde avoisine maintenant les 75 millions, selon un décompte de l'université Johns Hopkins de Baltimore, dans l'état du Maryland.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.